affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons élargir nos horizons pour fêter dignement le bicentenaire de la Société de Géographie. Depuis 1821, elle encourage les expéditions sur le terrain, soutient des publications de cartes et d'ouvrages, contribue à une meilleure connaissance de notre monde. Son évolution illustre les mutations d'une discipline passionnante qui intègre désormais de nouveaux enjeux comme l'urbanisation massive, le réchauffement climatique ou la circulation d'une épidémie. Au fil des ans, cette institution a agrégé de nombreuses personnalités autour d'une même passion, des aventuriers, des militaires, des ingénieurs, des écrivains voyageurs, des princes, des commerçants et des savants, bien sûr. En son honneur, l'année 2021 sera donc dédiée à la géographie en France. Nous allons revenir sur l'histoire de la Société de Géographie en compagnie de son président, Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt est géographe de métier, avec une prédilection pour les sujets liés à la gastronomie. Il est par ailleurs secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors, il y a dans le monde aujourd'hui une centaine de sociétés de géographie et celle dont nous allons parler occupe une place à part puisqu'elle est la première de toutes, la doyenne. Comment se fait-il qu'elle soit née en France ? Est-ce que c'est un hasard ?
Ah non, ce n'est pas un hasard du tout. C'est que notre pays entretient une passion, et son élite en particulier, une grande passion pour la géographie. Les trois derniers Bourbons, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, étaient fous de géographie, de cartographie, le collectionneur de cartes, passionné par les rencontres avec les navigateurs et les explorateurs. Après la Révolution, qui n'est pas une période très faste pour la géographie, vient Napoléon, qui lui aussi est un fou de géographie. L'expédition d'Égypte est en fait un acte majeur qui préfigure la création de la Société de Géographie, parce qu'il y a des savants de toutes les spécialités, et sous l'impulsion de Bonaparte et de ces grands savants, en particulier je pense à Edme François Jomard, qui a été longtemps secrétaire général de la Société de Géographie, on décrit l'Égypte et le travail d'accumulation des connaissances a été inimaginable. Et une fois Napoléon empereur, il déclare à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une réunion de savants à Paris et qui puisse rassembler toutes les connaissances que l'on a sur la géographie du monde. Donc il rêve de ça, il rêve de la Société de Géographie, qui aurait pu être créée plus tôt, même elle aurait pu être créée au temps où il y avait un géographe du roi, la famille Buache par exemple, c'est une famille de grands géographes des rois. Et en tout cas, c'est dans l'air. Pendant l'Empire, mais elle n'est pas créée. Il faut attendre 1821, où beaucoup des anciens de l'expédition d'Égypte se rassemblent. Ce sont tous des passionnés de géographie et disent « Eh bien, on va créer une société ». Et donc, ça se passe le 15 décembre 1821. Et c'est pourquoi elle s'appelle Société de Géographie et non pas de Paris ou de France, parce qu'il n'y en a pas d'autre dans le monde à l'époque. Et donc, nous tenons beaucoup à cette appellation très simple de Société de Géographie. Et tous les autres sociétés dans le monde le savent, qu'on ne dit pas la Société française de géographie ou la Société de Géographie de Paris, c'est la Société de Géographie, la mère de toutes les autres sociétés avec lesquelles nous entretenons depuis l'origine, parce que d'autres se créent, Londres et Berlin se créent assez rapidement après, et puis après Saint-Pétersbourg, etc. Mais les sociétés de géographie ont toujours entretenu des rapports d'amitié très féconds.
Cela vous donne-t-il certains privilèges ?
Non, évidemment non, évidemment. Mais on est quand même très fiers de cette antériorité. Et surtout, ça nous donne, vous savez, on dit noblesse oblige, ça nous donne des devoirs. Et le principal des devoirs que nous avons, en tant que société de géographie, ça n'est plus de créer le savoir nouveau, parce qu'il y a les universités, pour ça il y a beaucoup d'universitaires et de chercheurs, et ça c'est leur mission, avec des revues, avec des laboratoires, etc., des programmes de recherche. Nous, c'est de faire aimer la géographie. Et nous sommes dans un pays où le mot géographie fait un petit peu peur, ou parce que, pour des raisons qui tiennent à la manière dont on l'enseigne dans le secondaire en particulier, certaines tendances de la recherche aussi dans l'enseignement supérieur et au CNRS. Et l'image de la géographie n'est pas aussi positive et lumineuse que l'est l'histoire, par exemple, ou l'archéologie. Et nous le regrettons à la Société de géographie. Je le regrette personnellement. Et cette année, puisque nous l'appelons année de la géographie, nous la consacrons à essayer de faire connaître cette discipline, de la faire aimer et de montrer que sans culture géographique, on ne peut rien faire de bien de sa vie. Parce que c'est la connaissance géographique qui permet de comprendre le monde qui nous entoure et qui permet d'y agir avec un vrai sens des responsabilités, tant sur les questions d'environnement que sur les questions de géopolitique, d'économie ou de santé, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la pandémie qui nous afflige actuellement. Les géographes ont écrit pas mal de choses. Si vous regardez le site de la Société de géographie, il y a beaucoup d'articles géographiques sur le coronavirus.
Alors, nous allons revenir en 1821. À l'origine, il y a 217 membres fondateurs. Les ambitions d'emblée, on le sent, sont très importantes. Quelles seront les premières actions de cette société ?
Alors, les premières actions, alors parmi ces fondateurs, vous avez des gens comme Laplace, qui a été le premier président. Vous avez Alexandre de Humboldt, qui est déjà là. Vous avez Chateaubriand, qui va devenir président en 1825, etc. Donc, des gens qui n'ont pas a priori l'étiquette de géographe, mais qui sont des fous de géographie. Et on va faire d'ailleurs en 2025 un colloque sur Chateaubriand, géographe, parce que dans l'œuvre de Chateaubriand, il y a cette entrée géographique qui est formidable. Donc les premières actions sont d'essayer de rassembler les connaissances, d'encourager les explorations. Il ne faut pas oublier que les cartes comportent beaucoup, beaucoup de blancs encore à cette époque, et en particulier évidemment le continent africain, mais aussi une grande partie du continent sud-américain, la Sibérie, etc. Et donc la Société de géographie encourage les explorations. Un des premiers explorateurs que nous avons encouragé et qui a magnifiquement réussi, c'est René Caillé, découvreur de Tombouctou, et qui publie donc la relation de son voyage en 1830, donc quelques années après la fondation, très encouragé par Jomard, qui est secrétaire général. Énormément d'autres explorateurs ont été encouragés. Et tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont exploré des mondes nouveaux, ont appartenu à la Société de géographie, ont envoyé des rapports à la Société de géographie, et ça s'est fait jusqu'à une date récente.
Et quelles sont les motivations de ces explorateurs ? Vous disiez qu'elles pouvaient être de multiples sortes. Oui. Il y a la soif de connaissance, il y a peut-être un désir aussi, parfois de conquête, de découvrir les richesses du monde. Assez mêlé.
Dans un premier temps, non, il n'y a pas la conquête. La conquête, elle est présente dans les voyages du XVIe siècle. Hein, c'est les conquistadors, on les appelle les conquérants. Dans la première moitié du XIXe siècle, ce n'est pas tellement présent. L'idée est d'arriver les premiers. C'est plutôt une concurrence entre les Anglais et les Français, entre les Allemands et les Français. Et la performance. Mais c'est vraiment un souci scientifique de connaissance du monde et de cartographie du monde. Alors certes, il y a des petites idées derrière la tête. L'idée d'avoir des territoires sur lesquels on plante le drapeau français, pourquoi pas ? L'idée de faciliter le commerce, pourquoi pas ? Pas tellement d'idées religieuses à cette époque-là. Il ne s'agit plus de convertir le monde au christianisme, comme ça a pu être le cas dans les siècles antérieurs, bien qu'il y ait des missionnaires qui aient été de vrais explorateurs et qui ont décrit, ou même des gens qui sont devenus missionnaires après. Je pense à un des membres éminents de la Société de géographie, qui est le découvreur du sud marocain, c'est Charles de Foucault, et qui est, à la suite de cette exploration, s'est converti, puis est devenu missionnaire et est parti au Sahara, dans le Hoggar. Mais les motivations militaires, politiques, commerciales sont peut-être moins importantes dans les premières décennies de la Société de géographie qu'après. Après, oui.
L'Empire colonial, cela pourra
changer. Après, oui, bien sûr, la Société de géographie est au service de l'Empire colonial, mais pas seulement. Elle est aussi au service de l'aménagement du monde. Je pense, par exemple, à ce que le tracé du canal de Panama a été décidé à la Société de géographie, et Ferdinand de Lesseps est devenu notre président, mais le tracé a été décidé au cours d'un grand congrès à la Société de géographie. Donc c'est Vidal de Lablache, qui est le père de la géographie universitaire en France, a été à l'école française d'Athènes, parce qu'il était normalien, il a parti à l'école française d'Athènes pendant 2-3 ans, et il s'est débrouillé pour être présent à l'inauguration du canal de Suez, et il écrit des pages bouleversantes, tellement ça l'a ému, et il est devenu géographe sans doute à la suite de ça, parce qu'il était plutôt historien au départ.
Toutes ces aventures sont-elles suivies par le grand public avec le développement de la presse? Est-ce qu'il y a une sorte de passion populaire pour la géographie au XIXe siècle?
Alors, au XIXe, il y a une grande passion, de plus en plus grande, une passion pour la géographie qui se, qui se développe surtout après 1870 pour deux raisons. 1870, nous avons perdu la guerre, nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine. Donc faire de la géographie, un peu comme les Allemands l'ont fait un peu avant aussi, c'est de la géopolitique, c'est montrer que la France est une grande nation et préparer par la connaissance géographique et historique à ensuite la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine, mais aussi à la constitution de l'Empire colonial. Ça, c'est très important. Et puis, il y a l'école primaire, publique, laïque et obligatoire, qui joue un très grand rôle parce qu'on enseigne. Jules Ferry tient à ce qu'au moins une heure par semaine, on enseigne la géographie aux élèves. Alors, c'est une géographie qui, aujourd'hui, fait un peu sourire parce qu'on apprend les noms des fleuves et de leurs affluents, les préfectures et les sous-préfectures des départements. Donc, on dit, bon, si c'est ça, la géographie, c'est pas passionnant. Mais moi, j'ai le souvenir encore de mes parents qui connaissaient par cœur, ils avaient été très peu à l'école, mais ils connaissaient par cœur les préfectures et les sous-préfectures de France, et c'était un plaisir pour eux de réciter ça. Moi, j'ai encore le souvenir, même dans ma jeunesse, donc c'est le début des années 60, d'avoir appris le nom de tous les affluents des fleuves français. Je peux vous réciter affluents de rive gauche de la Garonne, la Save, la Gimone, le Gers et la Baïse. Vous voyez, ça me ressort comme ça, parce que, et on apprenait ça par cœur, et fin 19e se développe aussi beaucoup de publications de vulgarisation autour de la géographie, des atlas. Il y a des cartes dans les écoles, il y a des revues avec des gravures, et puis un peu après des photos en noir et blanc. Les livres de Reclus se diffusent partout, alors que Reclus est pourtant un militant anarchiste et anticolonialiste, etc. Mais pourtant, ces descriptions sont tellement palpitantes que c'est lu partout. Jules Verne, qui fait partie de la Société de géographie. Alors certes, il écrit des romans, c'est pour ça qu'il est très lu, mais ce qui fascine chez Jules Verne, comme un peu plus tard pour ma génération dans Tintin, c'est le fait que les héros de Jules Verne voyagent dans le monde entier. On décrit le monde, la variété, la diversité des paysages. Donc il y a une fascination pour l'exotisme, parce qu'on voyage peu à l'époque, il y a peu de gens qui voyagent. Donc lire des récits de voyage, c'est rentrer dans le monde mystérieux de l'inconnu, et on a soi-même, on rêve de voyager. Donc on accompagne les héros, de Jules Verne dans leurs expéditions.
Le rôle de l'imaginaire est important en géographie.
Oui, et en même temps, la science géographique, elle est là pour dire, attendez, vous pouvez, si vous croyez que tel pays c'est comme ça, non, voilà la réalité. Donc la géographie, elle est là aussi pour effacer un peu le mystère. Mais évidemment que tant qu'on n'a pas voyagé dans un pays, lire une description, ça fait rêver, et donc on s'imagine de plein de choses. Il est sûr que si Puccini avait voyagé au Japon, sans doute que Madame Butterfly ne serait différente. Donc la connaissance géographique, ça a tendance à démystifier un tout petit peu. Il faut bien reconnaître.
Cela passe par le terrain, notamment.
Alors, pour moi, le terrain est essentiel. Je fais partie, alors ce n'est pas le cas de tous les géographes d'aujourd'hui. Il y en a qui pensent que ça ne sert à rien parce que faire l'inventaire du monde ne sert à rien. Ce qu'il faut trouver, c'est les règles de fonctionnement. Donc on a les règles dans sa tête, on a sa boîte à outils, et puis avec ces outils, on les place sur une réalité n'importe laquelle et on comprend. Or, moi, je fais partie d'une école qui croit encore qu'il y a beaucoup de mystères dans le fonctionnement du monde, que la géographie est là pour essayer de comprendre tout cela, mais que tant qu'on n'a pas vu fonctionner les choses dans un lieu donné, à un moment donné, donc fait du terrain, rencontrer les gens, on reste à la surface des choses.
Vous avez évoqué le nom de Vidal de la Blache comme un jalon, un père fondateur sur ces 200 ans de société de géographie. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi il a été important ?
Alors Vidal de la Blache est important parce qu'il a donc c'est un converti, hein, c'est un historien devenu géographe qui a l'une des premières chaires de géographie, la première en tout cas à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, et qui théorise un peu la géographie tout en étant très proche du terrain et des réalités, et qui aurait aimé voyager bien plus qu'il ne l'a fait. Il a voyagé quand même pas mal, mais qui aurait aimé voyager davantage, qui a envoyé beaucoup de ses élèves après les premiers géographes du début du XXe siècle sont envoyés par Vidal faire des thèses un peu partout dans le monde. Il y en a qui vont au Brésil, il y en a De Marton qui est son successeur, et l'un de mes prédécesseurs à la Société de géographie s'en va en Roumanie, etc. Ces gens-là écrivent, font des cartes, décrivent les gens et les paysages, et même font de la géopolitique, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la Première Guerre mondiale, Aristide Briand réunit un comité d'études avec Vidal de la Blache et Lavis, l'historien, comme président, et Vidal comme vice-président. Puis Vidal meurt en 18, mais c'est De Marton qui lui succède. Et après, un certain nombre d'idées de ce comité d'études, où beaucoup de géographes de la société travaillent, prépare le congrès de Versailles et par exemple la création de la Roumanie, c'est totalement décidé par De Marton, enfin proposé par De Marton. Il fabrique les frontières de la Roumanie comme il pense qu'elles doivent être.
Il y a un autre congrès dans lequel la Société de géographie a joué un rôle important, du moins dans sa préparation, c'est le congrès panarabe. Cet épisode est assez peu connu. Pouvez-vous nous le raconter ?
Oui, c'est un triste épisode. Attends, je me trompe pas de l'année, c'est
1913.
Là, donc c'est à la veille de la Première Guerre mondiale. Un certain nombre de géographes donc travaillent dans l'Empire ottoman, et la Société de géographie est saisie d'une demande émanant des représentants des nations arabes de l'Empire ottoman et qui veulent plus d'autonomie. Ils ne sont pas contre l'Empire ottoman, mais ils veulent plus d'autonomie. Et donc, en accord plus ou moins explicite avec le Quai d'Orsay, un congrès de ces délégués arabes de l'Empire ottoman se réunit à Paris et font un certain nombre de propositions qui sont envoyées à Istanbul, aujourd'hui, pour demander des réformes telles que, par exemple, le service militaire au sein de la région d'origine, choses comme ça, et davantage d'autonomie dans les décisions politiques. Et ce congrès, donc, qui a donné lieu à une grosse publication, a été suivi malheureusement à la chute de l'Empire ottoman, pendant la Première Guerre mondiale, dès 1915, par l'assassinat de tous ses délégués à Beyrouth et à Damas. La place des Martyrs à Beyrouth commémore la pendaison de ces délégués du monde arabe qui étaient présents à la Société de géographie 2 ans plus tôt.
La géographie peut-elle encore contribuer à la recherche de la paix aujourd'hui ?
Ah ben, vous savez, un de mes membres de la société, d'ailleurs, un de mes collègues et amis, Yves Lacoste, qui a créé la revue Hérodote, a écrit un livre très célèbre en 1976, je crois, qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Alors ce livre, qui a eu un grand retentissement, ne dit pas que la géographie prépare la guerre. Elle dit simplement que la science géographique a été longtemps très liée, d'où ce d'abord, à l'armée et aux militaires. D'ailleurs, les cartes géographiques, on les appelait d'état-major il n'y a encore pas si longtemps. Hein, les cartes topographiques avec les courbes de niveau, c'était fait pour les militaires. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Mais incontestablement, et c'est ce qu'il croit lui aussi d'ailleurs, la bonne géographie, c'est-à-dire la géographie objective et la plus ouverte possible aux réalités du monde, elle sert à faire la paix. Et je dis la phrase opposée, enfin contraire en tout cas à celle de Lacoste, c'est « l'ignorance géographique est une arme de destruction massive ». Beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, qui sont très tristes, sont liées à l'ignorance. Je vous prends un exemple, si vous me permettez. Le génocide du Rwanda. Entre les deux ethnies importantes de ces régions de l'Afrique orientale, c'est les Hutus et les Tutsis. Les Hutus sont des petits, sont plus petits et ils sont cultivateurs. Les Tutsis sont très grands et ils sont éleveurs. Et ces gens-là ne s'entendent pas entre eux. C'est une question de partage de territoire, c'est de la géographie. Les Tutsis sont sur les hauteurs, sur les collines, et les Hutus sont plutôt dans les zones basses et cultivables. Simplement, quand on étudie, quand on fait un peu de vraie géographie ethnographique, on s'aperçoit que génétiquement, ce sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est simplement une différence d'alimentation. Les Hutus mangeurs de mil restent plutôt de petite taille, alors que les Tutsis mangeurs de viande et buveurs de lait prennent 10 ou 20 cm de plus, et la différence, elle est là. Mais sinon, c'est la même culture, c'est la même origine, c'est simplement une différence de partage de l'espace. Donc faire de la géographie, je trouve que c'est dommage que les Hutus n'aient pas su ça au moment du génocide. Ils auraient mangé un peu plus de viande, ils auraient grandi et ils auraient ressemblé aux Tutsis. Mais bon, ça c'est un tout petit exemple, mais il y a tellement de choses où on voit bien un certain nombre de dirigeants qui manquent de culture géographique. Je pense, je vais même mouiller ma chemise si vous me permettez, mais je pense que le président Trump manquait singulièrement de culture géographique. On peut penser ce qu'on veut des choix politiques qu'il a fait, mais dans un certain nombre de ses déclarations au long des 4 années de son mandat, on voit bien qu'il avait une ignorance abyssale des réalités du monde. Je pense à la Chine, par exemple. Ignorer ce qu'est la réalité chinoise, ça peut aboutir à des guerres extrêmement graves. Donc je pense qu'on peut penser ce qu'on veut de tel type de gouvernement, mais déjà quand on connaît mieux le pays, on comprend beaucoup de choses. Il y a encore trop d'ignorance vis-à-vis de la Chine aujourd'hui. Moi, il se trouve que je fréquente le Japon depuis plus de 40 ans. Les horreurs qu'on pouvait lire dans les années 80 sur le Japon, dans la presse française, montraient une ignorance abyssale. Moi, j'y allais, je découvrais ce pays. Je disais, mais c'est pas du tout ce que je lis dans les journaux, ça ressemble pas du tout à ça. Donc la géographie, elle est là pour éclaircir les réalités, non pas pour dire ce qu'ils font est bien, ça c'est formidable, mais pour déjà comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Et faire de la géographie de la Chine et de l'histoire de la Chine, parce qu'on ne peut pas faire de géographie sans histoire, je pense que ça aide aussi à comprendre ce pays, non pas à dire le gouvernement est formidable. C'est pareil pour la Russie. Les Français réagissent trop de manière sentimentale. Moi, je suis pour Poutine ou contre Poutine. Mais déjà, c'est quoi la Russie? Qu'est-ce que c'est la géographie de la Russie? Qu'est-ce que c'est l'histoire de la Russie? Déjà, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on comprend, ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais on est mieux à même de dialoguer et de dire des choses pertinentes qui, éventuellement, peuvent faire changer une situation critique ou critiquable.
Est-ce que vous pensez que dans ce contexte de mondialisation, les simplifications ont été peut-être plus tentantes? Et est-ce qu'il y a une idée en géographie d'avoir une sorte d'explication globale du monde qui est quand même intéressante malgré tout?
Mais la géographie, c'est la science de la diversité. Et moi, j'ai d'abord, quand on est géographe de profession, comme je le suis, se rendre compte et essayer de comprendre la diversité inimaginable, kaléidoscope qu'est le monde, c'est passionnant en soi. Plus c'est divers, plus c'est passionnant pour un géographe. Et nous devons être contagieux. Il faut que tous nos contemporains soient passionnés par cette diversité. Mais j'irai plus loin, c'est que cette diversité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, tout le monde sanglote autour de la disparition de la biodiversité. Je veux bien, il y a sûrement des situations critiques ici ou là, qu'on exagère beaucoup aussi. Nous, géographes, sommes moins pessimistes que les biologistes à ce sujet. Mais la diversité humaine du monde, la biodiversité culturelle, elle est formidable. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Elle m'émerveille tous les jours. Et il faut en faire une richesse de cette diversité. Parce qu'un monde qui serait uniforme serait prodigieusement ennuyeux. Donc la diversité, à condition qu'elle soit connue, acceptée, vécue comme un enrichissement, c'est-à-dire que même dans la vie quotidienne, on est différent de son voisin, de son collègue de bureau, et c'est justement cette diversité de culture, d'opinion, qui fait que c'est intéressant de dialoguer. Parce qu'on s'enrichit forcément. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais finalement, c'est pas si mal ce que tu dis. Et donc, à l'échelle géographique, c'est ça qui est important. C'est que la diversité des situations, également des actions humaines face à l'environnement, face à toutes sortes d'événements, doit permettre à chacun de s'enrichir et de trouver des bonnes solutions.
Cette diversité, elle existe en France dans ce qu'on appelle les pays. Il y a aussi les terroirs. Je sais que ce sont des sujets que vous avez travaillés. Est-ce que vous êtes inquiets aujourd'hui pour cette diversité-là, ou au contraire, y a-t-il une belle vitalité ?
Pas du tout. Vous avez dit tout à l'heure que je m'intéressais un peu à la gastronomie et au vin. La diversité des vins, elle s'accentue actuellement. Il y a eu une tendance, il y a encore 30 ou 40 ans, où on disait « Oh là là, c'est trop compliqué, il faut faire des vins simples avec des cépages que tout le monde connaît, on fait du Cabernet Sauvignon, on fait du Sauvignon ou du Pinot Noir, point. » Qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou de Bourgogne, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Il y a de plus en plus d'amateurs et de connaisseurs dans le monde, y compris en Chine, y compris aux États-Unis et ailleurs. Et ce qu'ils veulent, c'est justement être étonnés à chaque fois. Parce que la diversité crée de l'étonnement. Et l'étonnement, c'est toujours de la joie. Donc découvrir un vin nouveau, venant d'un terroir qui se révèle parce qu'il y a de bons vignerons qui essayent de le faire parler, de lui faire donner le meilleur de lui-même, c'est un émerveillement pour l'amateur de vin. Et donc, toute la géographie, c'est ça. Et quand on voyage, moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup parcouru la planète, d'avoir des semelles de vent, je m'émerveille à chaque fois que je sors d'un aéroport dans une ville que je ne connais pas. J'ai les yeux grands ouverts et je ne sais pas ce que je vais en tirer. Mais j'en fais mon profit, je peux vous assurer.
Aujourd'hui, la Société de géographie soutient toujours des expéditions. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ?
Alors, moins maintenant, la Société de géographie, parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Il y a une société des explorateurs français que nous hébergeons, qui est une sorte de une petite sœur, une filiale, mais il n'y a plus beaucoup de terres inconnues à découvrir. Donc, il y a beaucoup d'exploits sportifs autour de l'exploration, mais nous ne trouvons pas forcément que traverser la Sibérie en patin à roulettes ce soit forcément utile à la géographie. C'est un exploit sportif, très très bien, mais en revanche, il y a énormément de connaissances à acquérir sur le monde, et nous avons à vulgariser ces connaissances, nous avons à les faire aimer, ces connaissances nouvelles sur le monde, à donner à tous nos contemporains le goût de connaître le monde, de ne pas voyager comme des valises, de lire avant de voyager et de profiter au maximum de cette diversité de la planète, mais en la comprenant et en la prenant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une richesse incommensurable, à condition qu'on décide d'entrer à l'intérieur de cette diversité, de la comprendre.
Dans un monde où aujourd'hui tout est géolocalisé et où l'information est multiple et assez complexe.
Oui, alors c'est ça aussi, c'est qu'il faut donner des clés pour arriver à se retrouver dans ce maquis invraisemblable. Aujourd'hui, la connaissance géographique est partout, partout, partout. Et comme vous dites, tout est géolocalisé. On a des instruments aussi de mesure de la réalité terrestre qui sont extrêmement performants, mais complexes à utiliser. Donc nous avons à vulgariser ce savoir au bon sens du terme, c'est-à-dire à le rendre accessible au commun des mortels.
C'est donc la mission de la Société de géographie qui fête cette année ses 200 ans. Elle a été fondée en 1821. Un grand merci, Jean-Robert Pitt.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.